Bonjour, bienvenue dans notre 32e émission, dans notre musée imaginaire. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le maniérisme à Venise. Alors, j'espère que vous avez suivi notre émission précédente pour mieux comprendre ce mouvement de peinture. Et nous allons donc aujourd'hui voyager, partir en Italie, plus particulièrement donc à Venise, et attention, chef-d'œuvre. Chefs-d'œuvre qui pourront peut-être constituer notre propre musée imaginaire. Alors les principaux mécènes à Venise, bien sûr, ce sont les doges. Venise, son âge d'or jusqu'au XVIe siècle, durant la période byzantine. Je vous rappelle que en 1453, nous avons la chute de Constantinople. Pour vous expliquer un petit peu, le palais ducal, vous voyez, est de style gothique, influence byzantine, musulmane. La basilique Saint-Marc, en 828, est reconstruite par un architecte de Constantinople. Et nous voyons donc dans cette basilique mosaïque byzantine et gothique. Voilà un petit peu le tableau à Venise. Et nous allons donc avoir ce maniérisme qui va se développer à Venise, et là encore, des chefs-d'œuvre extraordinaires. Et tout d'abord, Bellini. Bellini, Giovanni, 1425-1516, il est né à Venise, il décède à Venise, c'est le deuxième maître dans ce XVe siècle, dans la logique de parallèle avec la peinture florentine. Il va rompre avec la Renaissance florentine et romaine et introduire le maniérisme à Venise. Bien sûr influencé par l'art byzantin et l'orientalisme, dans ses tableaux, l'importance du paysage, il représente l'architecture déjà en place à Venise ou dans la région. Ses personnages ont souvent un visage pathétique, musculation nerveuse, référence à Michel-Ange, la Pietà, mais il y a une ambiance particulière dans ses tableaux, manière particulière de développer la couleur. Et nous avons quelque chose de remarquable, c'est le primat de la couleur, couleur froide, diffuse, mais il n'y a pas de clair-obscur. Et chez les peintres vénitiens, la qualité de la couleur est très importante, effet de couleur très particulier, coloris très fort, très puissant. Et on va le retrouver dans les suiveurs, dans les élèves de Bellini, en particulier Giorgione. Chez les Florentins, c'est le primat pour le dessin, avec des formes cernées. Chez les Vénitiens, pas de traits nets, évanescence des couleurs. On parlera de manière vénitienne, prédilection, goût général pour la couleur, une sorte de sfumato coloré, élément d'architecture antique et byzantin dans cette peinture. Alors, avec Giovanni, quelques œuvres, portrait du doge, en particulier Leonardo Loredan, regardez-le. À cette époque, Venise est la ville la plus riche du monde, la deuxième ville d'Europe la plus peuplée après Paris. Et on voit dans ce tableau l'importance du personnage qui a été doge de 1501 en 1521. Autre œuvre à regarder, la Madonna del Prado, la Vierge à l'Enfant, là aussi remarquable, qui est à Détroit en 1509, la Vierge aux Arbrisseaux, Accademia de Venise. Nous voyons donc que Bellini a peint vraiment, il est sublime dans ses Vierges à l'Enfant, il y a plusieurs œuvres Vierges à l'Enfant. Et puis nous avons quand même une forme particulière aussi, un chef-d'œuvre, orientalisme, dans son tableau « La femme nue devant un miroir » 1515, parmi ses dernières œuvres, et c'est un chef-d'œuvre. La jeune femme est nue, assise sur un banc recouvert d'un tissu coloré. Elle se regarde dans un miroir, chevelure d'un blond vénitien. Elle est à sa toilette et nous avons un deuxième miroir au mur qui lui permet de regarder sa coiffure, dont nous avons différents reflets, donc des miroirs. Donc on peut parler de tableau dans le tableau. Mélange de tissus avec des couleurs merveilleuses, travail de la couleur, de la lumière, modulation du corps de la femme. Sous le rebord de la fenêtre, à gauche, flacon de cristal avec des reflets, contenant peut-être un onguent, un parfum, une huile, une soucoupe avec une éponge, donc objet de toilette, et derrière cette douceur, harmonie du paysage. Donc tableau vraiment un chef-d'œuvre. Deuxième peintre important, Giorgione, 1477-1510, dans une période courte car il va mourir très jeune, par de la peste, à 32 ans. Nous avons une atmosphère familiale, artistique, c'est un élève de Bellini. Il introduit lui aussi la peinture maniériste, connaît parfaitement les couleurs dès le départ, et nous avons avec lui un monde enchanteur, une dimension spirituelle dans ses tableaux. Une œuvre très particulière, La Tempête, en italien, en Tempesta, l'orage, vers 1505. Un tableau, je vous demande de le regarder, c'est une œuvre extrêmement poétique, délicate, un tableau très mystérieux. Le paysage prime sur les personnages, une grande symphonie de couleurs. Un orage approche, une belle jeune femme donne le sein à son enfant à droite. Et à gauche, nous avons un jeune berger vêtu élégamment, ruine d'un tableau antique au centre gauche, luminosité irréelle, presque divine des tours et des maisons. Donc c'est une peinture poétique, incroyable, une grande philosophie aussi dans cette peinture, destinée à une élite vénitienne cultivée. Il va aussi développer l'art du portrait. Un exemple, jeune homme à la flèche, 1505, à voir. Un portrait d'un autre jeune homme aussi. Et puis, une œuvre qui est extraordinaire, je trouve, 1504, Judith, qui est à l'Ermitage en Russie. Judith, après avoir décapité Holoferne, son pied gauche écrase la tête. De sa main droite, elle tient la grande épée. Judith est belle, fragile. Elle est forte. Un grand érotisme aussi, que la cuisse gauche est nue, elle dénoue sa ceinture, la couleur remarquable, rougeâtre, chaude, magnifique. C'est un tableau que je trouve extraordinaire et pourquoi pas dans notre musée imaginaire. Un autre chef-d'œuvre, 1508-1510, la Vénus endormie ou couchée. Chef-d'œuvre, couleur très douce, intérêt plus pour la couleur que pour la forme. Il est conservé au musée à Dresde. Développement de la forme couchée, plaisir et désir, voyeurisme de cette femme qui se donne du plaisir. Le paysage sera terminé par Titien, car Giorgione meurt avant d'avoir fini le tableau. Et cette image de la Vénus endormie au coucher sera reprise plus tard par différents peintres, Titien, mais aussi Ingres, Manet. Troisième peintre important à Venise, Titien, bien sûr. 1490-1578, né en Vénitie, mort à Venise, à l'égal de Raphaël et de Michel-Ange, très influencé par ses maîtres, élève de Giorgione, de Bellini. Une œuvre particulière, un autoportrait qui va annoncer Rembrandt et visualiser ainsi la personnalité du Titien. Il développe davantage l'art du portrait, de la couleur, au détriment du dessin. Il va dominer le milieu artistique, réussite matérielle, adulé de son vivant. Il travaille pour le pape Paul III, Farnèse, Charles Quint, c'est un peintre officiel de Venise et de Charles Quint. Il sera anobli en 1534. Donc portrait officiel de Doge, scène historique, de bataille pour le Palais Ducal. Ses œuvres, tout d'abord le concert champêtre en 1509 qui est au Louvre. La femme est déshabillée, les hommes sont habillés. Une autre œuvre remarquable, Amour sacré, amour profane. 1514, et on le trouve à la Galerie Borghese, pour moi, chef-d'œuvre. Deux femmes assises sur un blanc avec une grande allégorie, une grande symbolique. Au centre, nous avons un Cupidon, compagnon de Vénus, grande richesse de paysage. À gauche, nous avons une femme qui est habillée, qui symbolise des valeurs éternelles. À droite, une femme nue, symbolisant la passion et le désir. Sensualité tournée vers l'antique. Nous pourrions développer ce tableau. Il y a énormément de choses à dire sur lui, mais bon. Le temps nous manque, mais nous en reparlerons. Une autre œuvre, Bacchus et Ariane, qui est à Londres, à la National Gallery. Marie-Madeleine, image très particulière de la femme, il fera de nombreux portraits de Marie-Madeleine. Et il va, en 1538, à l'âge de 50 ans, créer son chef-d'œuvre, la Vénus d'Urbain. C'est une œuvre qui a été commandée par le duc d'Urbain. Il a un rapport avec son maître, la Vénus allongée de Giorgione. Il est conservé à Florence, au musée des Offices. Ce tableau va inspirer Manet pour son Olympia, un des plus beaux nus de l'histoire de l'art, un érotisme très prononcé. La jeune femme est étendue sur une couche rouge, couverte d'un drap froissé. C'est un nu, elle nous regarde avec une grande intensité. Là aussi, c'est un chef-d'œuvre, vraiment, c'est extraordinaire. Un autre chef-d'œuvre, il y a plein de chefs-d'œuvre, Danaé. 1544-1545, une femme nue, un blond vénitien, érotisme et grâce avec présence de Cupidon, conservé à Naples au musée de Capa di Monte. C'est la première Danaï, il fera six versions différentes. Titien, grand portraitiste comme Raphaël. Nous avons un portrait de L'Arétin en 1525, écrivain de la Renaissance, poète. Peu d'importance du décor, mais il se concentre sur la personne, sur la psychologie du personnage. Autre portrait que vous connaissez certainement, portrait de Charles Quint, et puis un autre portrait que j'aime beaucoup, extraordinaire, L'homme en bleu, ou portrait de l'Arioste, qui est à Londres, avec, qui est un poète italien, véritable chef-d'œuvre de la couleur, avec une manche d'un bleu extraordinaire, un travail extraordinaire de la couleur. L'homme en bleu, portrait de l'Arioste, à voir. Un autre peintre, bien sûr, Tintoret, 1519-1594, Jacopo Robusti, dit le Tintoret, c'est un fils d'un teinturier, d'où ce nom. Chassé, il sera exclu de l'atelier de Titien. C'est un grand maître de la couleur, élément pris dans la peinture des grands maîtres, Michel-Ange, Raphaël. Un maniérisme qui va allier le dessin de Michel-Ange avec la couleur du Titien. Il se sert de l'espace, grande diagonale, beaucoup d'architecture dans ses toiles, parfois fantastique, érotisation des corps, on dénude les femmes, grand tableau de dévotion, des œuvres, j'en cite quelques-unes, enlèvement du corps de Saint-Marc, le lavement du pied, remarquable, la scène, remarquable aussi. Et enfin, Véronèse, avec son fameux vers de Véronèse, 1528-1588, né à Vérone, mort à Venise, et après Vérone, il va partir en 1553 à Venise. Influencé par Michel-Ange, Titien, Parmesan, immense tableau d'une Venise fastueuse, beaucoup de personnages, charges très détaillées, des couleurs extraordinaires, avec ce fameux vert de Véronèse, décor d'architecture fantastique, extravagant même, avec des fresques de couleurs vives. Alors, parmi ses œuvres, un chef-d'œuvre, les noces de Cana, tous les éléments du Quattrocento sont là, éléments vénitiens de la couleur, au Louvre. C'est un tableau gigantesque, 10 mètres de long sur 6 mètres, plus de 6 mètres de hauteur. Autre chef-d'œuvre aussi, la famille de Darius au pied d'Alexandre, qui est à Londres, à la National Gallery, le repas chez Lévy, à l'Accademia de Venise, et puis, je vais me faire plaisir, la Villa Barbaro ou Villa Masser, dont l'architecte est Palladio en Vénitie. Alors pourquoi ces villas palladiennes? Parce que, à la fin au cours du XVIe siècle, Venise a une activité économique qui est en berne, et les riches vénitiens vont investir dans les activités agricoles et se faire construire dans des domaines autour de villas. Et dans la Villa Barbaro, qui est quelque chose de merveilleux, nous avons des fresques extraordinaires de Véronèse, avec des fresques en trompe-l'œil, mais c'est fantastique. Je vous conseille vraiment de regarder votre ordinateur, votre tablette et aller sur ces fresques de la Villa Barbaro en particulier. Donc, qui est un domaine à visiter, mais qui est quand même un domaine privé. Et dans ces fresques, nous avons Véronèse qui s'est représenté lui-même. Et je trouve extraordinaire de vivre dans cette villa qui est un musée, mais qui est une villa privée, et de vivre malgré tout avec toutes ces fresques extraordinaires de Véronèse. Donc voilà, c'était ce voyage à Venise aujourd'hui. Donc peut-être que ce soir, nous allons en reparler autour, après un repas, et mettre certains de ces chefs-d'œuvre dans notre musée imaginaire. Donc bonne visite à Venise. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler peut-être de l'architecture et de la sculpture maniériste. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bon voyage à Venise.